On va aujourd'hui continuer dans l'étude du prophète Amos. Prophète Amos, on va demander au Seigneur de nous guider dans cette étude encore une fois. Oui Seigneur, tu es le maître de l'histoire. Tu es au-dessus de, tellement au-dessus de nos plans, de nos voies. Seigneur, nous sommes perdus lorsque les choses ne vont pas dans le sens que nous attendions ou nous pensions, dans lequel elles allaient se passer. Et Seigneur, nous voulons être attentifs d'autant plus à ce que tu nous dis par tes prophètes, Seigneur. Un texte écrit en l'an 750 avant Jésus-Christ, et qui pourtant est d'une actualité toujours brûlante. Merci parce que ta parole, elle est la vérité. Elle ne change pas, Seigneur. Merci pour de nous mettre en garde contre les vents de doctrine qui peuvent souffler à droite à gauche, Seigneur, et nous aider à nous concentrer sur ce que nous savons être ta parole, Seigneur, la vérité. Une fois révélée une fois pour toutes aussi, Seigneur, nous avons rappelé que ce que tu nous as révélé, Seigneur, ça nous appartient dans le sens où c'est ce que nous devons mettre en pratique, c'est ce que nous devons partager avec ceux qui nous entourent, et qu'il y a des choses cachées, des choses que nous ne comprenons pas, que nous comprendrons de l'autre côté de l'éternité sans doute, mais tu nous as donné suffisamment de vérité, Seigneur, pour guider nos vies et pour les mettre en application. Seigneur, nous te remercions pour cette prophétie d'Amos, Seigneur, par laquelle tu veux nous parler aujourd'hui, à Nice, en France, en l'an 2016, Seigneur. Presque 3000 ans plus tard, Seigneur, ta parole, elle ne change pas encore une fois. Toi, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Ce sont les choses sur lesquelles nous voulons fonder nos vies. Te remercions dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amos, on a rappelé que c'était un homme ordinaire, dans le sens que ce n'était pas un théologien, il n'avait pas reçu une formation pour être prêtre, encore moins pour être grand prêtre. C'était en fait un éleveur de bétail, un éleveur de moutons, et il complétait ses revenus en vendant des figues, les figues du sycomore. C'est drôle parce que le nom de sycomore, c'est un beau nom, je trouve, mais en fait, les figues des sycomores, c'est des figues de seconde zone. C'est pas les meilleures, mais c'était son activité. Et il est un encouragement pour savoir que le Seigneur peut utiliser quiconque est vraiment engagé auprès de lui, ou qui veut le servir de tout son cœur. Il n'a pas de... On dit en certaines matières, quand on fait des études, qu'il faut avoir des prerequisites, des formations obligatoires. Tout ce que le Seigneur veut, c'est votre cœur. Et là, s'il a votre cœur, il peut vous utiliser. C'est lui qui peut mettre les paroles dans votre bouche, c'est lui qui peut mettre les projets dans vos pensées, c'est lui qui peut mettre la santé dans vos os, c'est lui qui peut tout faire. Ce qu'il veut, c'est votre cœur. Est-ce que votre cœur est à lui aujourd'hui, ou est-ce que peut-être vous lui avez donné votre cœur sincèrement, avec enthousiasme, il y a plusieurs années, et puis la routine, les années, les soucis, le quotidien ont fait que votre cœur il s'est un peu refroidi. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous dire de revenir à lui. On va voir que c'est son presque un leitmotiv, un thème qu'il va répéter. Et là, Historiquement, il s'adressait au peuple d'Israël. Le peuple de Dieu avait été divisé après la mort de David et celle de Salomon en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Rien à voir avec l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, pour ceux qui pensent déjà au match. C'était le royaume du Sud, c'était la capitale de Juda, c'était Jérusalem, ça s'appelait Juda parce que c'était la plus grande des deux tribus, il y avait Juda et Benjamin. Et au nord, il y avait 10 autres tribus, la plus grande c'était Éphraïm, la capitale c'était Samarie. Et Samarie, le roi qui avait causé cette division, avait eu peur que son peuple revienne régulièrement à Jérusalem et qu'il soit influencé pour réunifier le royaume avec leurs frères du sud. Et donc, pour éviter tout contact, il avait imaginé de faire un culte dans le pays du Nord, dans le royaume du Nord. Il avait installé un temple, ou plutôt des sanctuaires dans le Nord, à Bethel notamment. Et c'est là que Amos, qui était du Sud, est appelé par Dieu à venir délivrer, donner son message. Et on a vu qu'il avait commencé, donc il se trouvait à Bethel, auprès des chefs religieux du royaume du Nord, et il avait commencé à indiquer que le Seigneur allait juger les voisins d'Israël qu'il avait fait souffrir. Les voisins d'Israël comme Damas, la Syrie, comme Gaza, les Philistins, comme Tyr, les Phéniciens, Édom, Ammon, Moab. Et donc, tant qu'il prédisait du mal pour ces peuples qui avaient été des ennemis et qui restaient des ennemis et qui resteront des ennemis d'Israël, il était bien reçu. Il disait ce que les gens voulaient entendre. Un peu comme un politicien qui cherche à se faire élire. Tout le monde est pour payer moins d'impôts, avoir plus de temps libre, etc., etc. On sait ce que les gens veulent entendre. Et puis, il a toujours guidé par Dieu, il a commencé à indiquer qu'il y aurait aussi un jugement sur Juda, le royaume du Sud, avec Jérusalem. Là, les gens du Nord qui l'écoutaient à Bethel dans le sanctuaire ont commencé à se regarder les uns les autres en disant « qu'est-ce que c'est que maintenant il nous annonce que Dieu va se tourner contre son peuple ?» Et puis, c'est un prophète, c'est pas un politicien. Il n'essaye pas de plaire aux gens, il leur annonce qu'en fait, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, dit l'Éternel. Et il leur commence à leur prédire tout un tas de jugements qui vont leur tomber dessus. Là, ça passe plus avec les chefs religieux du Nord. Et pour paraphraser, ils lui disent, écoute, prophète à la noix, prophète des figues, repars chez toi, tu nous embêtes avec tes mensonges et tes fausses prophéties. Va prophétiser chez toi, ne viens pas nous embêter. Ici, c'est Bethel, c'est un sanctuaire royal, c'est une maison royale, dit le prêtre Amatsia. Et puis Amos leur dit, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, c'est-à-dire je n'ai pas reçu une formation de prophète, je ne suis pas prophète professionnel, je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au ruban à mesurer, toi tu mourras sur une terre impure et Israël sera exilé loin de son pays. On peut admirer le courage de ce prophète, mais il est animé par Dieu, par l'Esprit Saint, et il annonce la vérité. C'est quelque chose de constant dans l'histoire de l'Église, du peuple de Dieu. Souvent, Dieu doit réveiller son Église, son peuple, en lui annonçant des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre. Des vérités qui nous aimerions balayer sous le tapis. C'est pour ça qu'il est tellement important de recevoir tout le conseil de la parole de Dieu. Ces choses qui ont été dites en l'an 750 avant Jésus-Christ, parce que 2064 ans, ça fait un bail. Dieu veut que nous les entendions parce qu'il a des choses à me dire et des choses à vous dire, des choses à nous dire sur la façon dont nous vivons notre relation avec lui. Peut-être nous sommes un peu, comme je le disais, la routine, le temps. Nous avons perdu notre zèle. Nous avons tendance à relativiser les choses. Lorsque nous voyons des chrétiens un peu trop enflammés à notre goût, nous pensons que ça va leur passer. C'est la jeunesse, moi aussi j'étais comme ça, mais après quand tu verras, quand tu travailleras, métro, boulot, dodo, tu vas te calmer, mon petit. Non, il n'y a pas besoin de se calmer. On peut faire du métro, boulot, dodo et être plein de zèle pour le Seigneur. On peut avoir une vie très, très active et conserver un zèle pour le Seigneur. Il continue après ces 8 jugements qu'il nous a annoncés. On a vu à partir du chapitre 3 qu'il annonce 3 sermons de jugement, qu'il prononce 3 sermons de jugement. Et aujourd'hui, nous arrivons sur le troisième et dernier sermon qui concerne Israël et son futur. Il va nous dire que le jugement est bien mérité. Dieu est un Dieu logique. Souvent, il est mal représenté par des gens qui, au nom du Saint-Esprit, font n'importe quoi. Sans entrer dans les détails, méfiez-vous des prophètes ou des églises où on vous dit qu'on est tellement rempli de Dieu qu'on perd le contrôle de ce qu'on fait. Dieu nous laisse toujours contrôler ce qui se passe dans un culte, ce qui se passe dans... Après, il a toute puissance pour nous surprendre et faire des choses qui peuvent nous paraître nouvelles, mais ne cherchons pas nécessairement les nouveautés, les trucs plus excitants qu'ici, il se passe là-bas des choses, les gens tombent à la renverse. Il y a, sans polémiquer, revenez toujours à la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole, méfiez-vous. Dieu n'est pas limité, mais sa parole, il la respecte et il est toujours à la justifier par ses actes et par ce qui se passe autour de nous, dans notre monde, dans nos cœurs, etc. Il explique pourquoi le jugement va être mérité, c'est le début du chapitre 5. Et puis il va décrire une première malédiction, la première calamité du jugement dans la fin du chapitre 5. Et puis il va parler au chapitre 6, qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, de le deuxième malheur. C'est toujours important lorsque vous lisez l'Ancien Testament et toute la Bible en général, c'est de trouver des mots clés, des versets clés. Qu'est-ce que c'est qu'un mot clé ou un verset clé ? Un mot clé, c'est un mot que si vous l'enlevez, la phrase où l'idée perd de sa puissance, l'idée perd de sa valeur, l'idée n'est plus soulignée, elle est défaillante. Et notamment lorsque Dieu répète des expressions, on a vu au début, je l'ai lu pour les crimes d'Israël, mais on avait cette expression qui revenait à chaque fois, voici ce que dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de un tel, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, voici ce qui va se passer. Et donc ça structure la première partie de la prophétie d'Amos. Il répète cette phrase un peu bizarre qui veut simplement dire que c'est pas comme s'il a repéré 3 crimes et puis au dernier moment il dit « Oh, il y en a même un 4e ». Non, ça veut dire qu'il y a plein de crimes, il y a plein de péchés. Et il dit aussi qu'il ne revient pas sur sa décision. Il a formé sa pensée et il ne va pas revenir sur elle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt à pardonner si nous nous repentons, si nous revenons à lui. C'est le thème de ce qu'il va... Chaque fois que Dieu nous parle de jugement, il nous parle toujours de comment échapper à ce jugement. Et ce jugement que nous méritons, nous savons tous, pour la plupart du moins, que c'est Jésus-Christ qui l'a reçu à notre place, à ma place, et que pour éviter de recevoir le jugement que ma nature de pécheur et mes actes de pécheur mériteraient, il me suffit de mettre ma confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ, de comprendre que si je reconnais qu'il a souffert à ma place, qu'il a pris la punition que je méritais, à ce moment-là, miracle des miracles, je suis sauvé, je n'ai pas à recevoir, à subir cette punition. Jésus l'a prise à ma place. Le jugement est passé. Le sang a été versé. Mais si je ne suis pas si je ne mets pas ma foi en Christ pour ce salut, alors à ce moment-là, je ne suis pas au bénéfice de cette paix éternelle et j'aurai à confronter un Dieu de jugement. On va lire ensemble à partir du premier verset de Amos 5. Écoutez cette parole. C'est comme ça qu'il a introduit les premiers et deuxièmes sermons. Et là, il annonce qu'il va dire des choses très importantes, qu'il faut les écouter. Lorsque Dieu nous dit d'écouter, on serait bien inspiré de le faire, n'est-ce pas? On a tant de voix qui se battent pour attirer notre attention. On a des discours politiques, on a des publicités, on a des tas de voix parasites qui essayent d'attirer notre attention. Et je dois demander pardon à Dieu parce que, je crois que c'est mardi matin, je me suis réveillé de bonne heure et j'ai fait l'erreur de regarder l'heure qu'il était sur mon iPhone. Et là, ils m'ont dit « le Brexit a gagné ». Du coup, je me suis levé et j'ai pensé au Seigneur beaucoup plus tard en me disant « j'étais pris par les nouvelles, par les breaking news, par les flashs d'infos, par les... » Combien de temps il vous faut avant de vous mettre en colère contre BFM TV qui vous prend pour des imbéciles en repassant le même petite vidéo de 10 secondes sans arrêt pendant 3 heures? Moi, ma patience a diminué, mais je suis encore pris par ces flashs d'infos. Dieu nous dit « Écoutez ma parole ». Alors c'est bien des fois d'être secoué par ce qui se passe ici et puis d'aller écouter la parole de Dieu. Je crois que c'est encore mieux d'être préparé en lisant la parole de Dieu et après on peut prendre tout ce que BFM TV nous envoie, CNN et la BBC, BBC, Sky News qui est le roi des breaking news. Écoutez cette parole, cette complainte, c'est une lamentation que je prononce sur vous, communauté d'Israël. Il a du cœur pour Israël. Ne parlez pas aux gens du jugement de Dieu si ça ne vous déchire pas le cœur. Je vous ai déjà partagé cette attitude que un de mes amis avait. Quand j'étais jeune chrétien, c'était un homme très zélé qui emmenait d'autres personnes avec lui pour témoigner dans la rue, en donnant des traités, en discutant avec les gens, en faisant des sondages, même en chantant. Et lorsque les gens refusaient son message, je lui disais « Arrête avec tes salades, fous-moi la paix, etc. » Alors il se mettait en colère, il disait « Tout genou fléchira devant Dieu, vous verrez ce que vous verrez à la fin, vous allez périr dans les flammes de l'enfer. » Alors c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas une façon d'attirer les gens au Seigneur. On avait presque l'impression qu'il était content d'avoir trouvé des gens qui allaient servir à nourrir les flammes de l'enfer. « Ah, c'est vous allez périr !» Non, il faut que, pour mériter le droit de partager le message de l'Évangile, il faut avoir de l'amour pour les gens auxquels vous vous adressez. De la compassion, de réaliser que le message que vous avez à leur donner, c'est pas juste quelque chose pour leur confort ici-bas, c'est pas juste pour faire grandir la taille de l'Église, augmenter la dîme ou je sais pas quoi. C'est parce qu'il en va de leur vie éternelle, de leur salut. Et lorsque vous avez cette compassion, Jésus avait cette compassion pour le peuple qui était sans berger. Il faut être animé par l'amour des autres. Et je reconnais des fois, c'est difficile d'être animé par l'amour lorsqu'on voit les gens qui vivent en rejetant Dieu, en se moquant de lui, en se moquant de vous. Mais c'est là que si vous passez du temps avec Dieu, si vous l'écoutez, il peut vous donner cet amour. Quand je suis revenu des États-Unis, j'avais à cœur de partager le message avec les Français, le message de l'Évangile avec les Français. Et ça m'a pris du temps pour avoir vraiment de la compassion avec les Français. J'étais le premier à penser que c'était des gens très orgueilleux, qui pensaient avoir tout compris, qui pensaient avoir le meilleur système au monde, qui n'écoutaient rien. Les hommes politiques qui nous gèrent, pour la plupart, ils n'ont jamais fichu les pieds à l'étranger. Ça change un peu, heureusement. Mais j'ai demandé au Seigneur j'ai demandé qu'il me donne de l'amour vraiment pour ceux qui nous entourent. Nos voisins, nos hommes politiques. Est-ce que vous êtes animé, rempli d'amour pour eux? C'est vital. Et donc, il leur décrit le jugement et il dit « Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre et personne ne la relève. » On sent qu'il a de la compassion. Il décrit Israël comme une jeune fille vierge, c'est-à-dire qui n'est pas forte, qui n'est pas capable de résister aux attaques, et c'est d'autant plus triste de voir une jeune fille qui va être tuée, personne ne la relève, qui est couchée par terre, parce que derrière cette jeunesse, il y a tout le potentiel d'une vie pleine et remplie qui est gâchée, qui est tuée dans l'œuf, pour ainsi dire. Personne ne la relève. Et encore une fois, on a le bénéfice de l'histoire. Là, c'était au moment de la prophétie. On sait qu'en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus assiéger et prendre Israël, le royaume du Nord, pour les emmener en exil en Assyrie, et que personne n'est venu secourir, personne n'a relevé. Elle était vraiment couchée par terre. Après, elle a été enlevée. On a raconté plusieurs fois, les Assyriens étaient un peuple cruel. Et pour faire marcher les colonnes d'esclaves, d'exilés, ils les accrochaient avec des hameçons sur une ligne et ils les faisaient ainsi marcher. On ne traîne pas si on a un hameçon qui vous tire sur la bouche, ou alors si on traîne, c'est qu'on est épuisé, qu'on va mourir. Et il dit, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, celle qui en mettait 100 n'en conservera que 10 pour la communauté d'Israël. Israël va devenir très faible et va perdre ses militaires, ses soldats. Il n'y aura plus de monde pour la défendre. Ces villes qui étaient capables de réunir 1000 hommes, on en trouvera péniblement une centaine. Et celles qui en pouvaient en réunir 100, bref, il n'y aura plus de réalité de résistance. Et puis, en effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera exilé et Bethel deviendra une ruine. C'était des villes qui étaient célèbres. Bethel, c'était la ville où Jacob avait rencontré Dieu, où il avait eu la vision de cette échelle sur laquelle montaient qui reliait plutôt le ciel et la terre, et sur laquelle montaient des anges qui montaient et descendaient. Cette échelle, c'est un type de Jésus-Christ qui est le seul médiateur, dira Paul, entre l'homme et Dieu, l'homme-Dieu. Jésus. Bethel, c'était là que Dieu avait rencontré Jacob, où il avait toute une histoire avec la fidélité de Dieu. C'était là que le royaume du Nord avait institué ce tabernacle, avait installé ce tabernacle et ce culte idolâtre. Ils avaient même des veaux d'or. N'allez pas à Gilgal. Gilgal, c'était aussi en Galilée, ça veut dire le cercle, c'était une région très riche. C'est là que Josué avait fait des exploits. Beersheba, c'était au sud du pays, le puits où Abraham, Isaac et Jacob avaient pu voir la fidélité de Dieu. Et Dieu leur dit par le prophète Amos, ne vous fiez pas aux endroits. Ces endroits vont... Les peuples vont en être écartés, Gilgal sera exilé, Bethel deviendra une ruine. Non, il ne faut pas chercher des endroits. Je me souviens, lorsque j'étais revenu en France avec l'idée peut-être que Dieu m'appelait à son service, j'avais eu envie d'aller voir l'église catholique où je m'étais fait baptiser quand j'étais enfant, nourrisson. Et Dieu nous dit, c'est bien d'avoir peut-être des idées, des souvenirs, mais c'est pas la peine d'aller sur place. C'est pas la peine de faire des pèlerinages. On peut se sentir, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, un pèlerinage à Chartres, à la cathédrale de Chartres, et c'est bien pour la randonnée, mais c'est pas ça que Dieu cherche. Dieu, encore une fois, il veut pas vos chaussures Décathlon toutes usées, il ne veut même pas votre argent, il veut votre cœur. Amen. Et il dit, cherchez-moi encore une fois et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Jésus nous dira, ne vous souciez pas de toutes ces choses comme les païens le font, le toit, le logement, la nourriture, les oiseaux du ciel qui sont mieux habillés que ceux qui vont dans les magasins de grande, dans les maisons de haute couture. Ils remercient Dieu en chantant sans se faire de soucis. Dieu leur donne à manger. Cherchez d'abord son royaume et toutes ces choses, Dieu sait que nous en avons besoin, il vous les donnera en plus. En effet, oui, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez, sinon il fondra comme le feu sur la famille de Joseph, un feu qui la dévorera. 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Il est à Bethel et il dit à ses chefs religieux, vous ne serez même pas là pour réconforter, pour aider le peuple de Dieu. Il change le droit en absinthe et jette la justice par terre. Il y a des raisons de chercher Dieu, c'est parce que les hommes corrompent la justice. Ils changent le droit, donc les règles de justice, en absinthe. L'absinthe, c'est une plante qui est très amère, et c'est une façon de dire que ce qui pourrait être bon, ils le changent en quelque chose de corrompu. L'absinthe est célèbre aussi parce qu'on en a fait une liqueur très forte. Et au XIXe siècle, il y avait dans la communauté artistique, on devenait dépendant, on était intoxiqué à l'absinthe. C'est une boisson qui revient un peu à la mode, il paraît. J'en ai pas goûté. En anglais, c'est wormwood. Et en russe, ça se dit Tchernobyl. Intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais là, il nous dit que le droit a été corrompu, peut-être autant que corrompu par le nucléaire, par des radiations nucléaires, quelque chose qui est vraiment pourri et qui prend du temps à se restaurer. Il jette la justice par terre. Il faut contraster ça avec la puissance de Dieu. Pourquoi je crois chercher l'Éternel ? Parce qu'il est fantastique. C'est lui qui a créé les Pléiades et Orion. Les Pléiades, c'est 7 petites étoiles. C'est ce que veut dire le mot en hébreu. 7 étoiles. Et Orion, c'est cette constellation du guerrier qui est visible dans le ciel d'hiver, qu'on peut très bien voir sous nos latitudes. Et les Pléiades, on a du mal à les distinguer si on regarde directement. Elles sont intégrées dans le torse de Orion, le guerrier. Et souvent, pour mieux voir des étoiles, il faut regarder un peu à côté parce que la densité la plus forte de bâtonnets et de cônes dans nos rétines n'est pas directement dans l'axe de vision, mais un peu sur le côté. Donc c'est pour ça, des fois, vous voyez quelque chose du coin de l'œil, alors que si vous l'aviez regardé directement, vous ne l'auriez pas vu. Et c'est lui qui a créé les étoiles. C'est lui qui change les ténèbres, la nuit en aurore. Il peut obscurcir le jour pour en faire la nuit. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait venir la ruine sur les hommes forts et la ruine survient sur les forteresses. Il déteste celui qui les reprend à la porte de la ville et ils en ont horreur celui qui parle sincèrement. Vous avez exploité le faible, vous avez prélevé du blé sur la récolte. Sur sa récolte, vous avez construit des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Ils ont triché pour s'enrichir. Ils montrent de la haine verset 10, déteste celui qui les reprend à la porte de la ville, à la porte de la ville, celui qui conteste leur autorité ou leur jugement, ils le détestent. Ils ont horreur de ceux qui sont sincères, des gens sincères. Et ils exploitent les gens faibles, ils augmentent les taxes pour en profiter, ils ont des belles maisons qui se sont construites, mais la malédiction va venir. Ils ne vont même pas habiter, ils ne vont même pas boire le vin des vignes qu'ils ont plantées. Verset 12, « En effet, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. » Et il continue, « Vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin et vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville. » C'est là qu'il y avait, pour ainsi dire, le tribunal à la porte de la ville. « Voici pourquoi en des temps comme ceci, le sage se tait, car les temps sont mauvais. » Même ceux qui remarquent ces choses n'osent pas parler, parce qu'ils savent que la justice n'est plus exercée, qu'ils risquent de perdre leur liberté ou leur vie. Et puis verset 14, lorsque je parle des fois à des musulmans, ils me disent « Mais quelles sont les choses que vous devez faire exactement ?» Ils ont les piliers de l'islam, ces cinq choses qu'ils doivent accomplir chaque jour, une fois dans leur vie, une fois par an. Et ils demandent, mais où c'est chez vous? Alors on peut les pointer vers les 10 commandements, mais quel beau résumé, verset 14, recherchez le bien et non le mal. Ça ne veut pas dire que si des fois vous faites le mal, mais est-ce que votre motivation première, c'est de chercher à faire du bien autour de vous? Ou est-ce que des fois vous dites, celui-là je ne peux pas le sentir, je vais lui faire une entourloupe. Non le mal, afin que vous viviez. C'est une question de vie et de mort. Et ainsi, ce n'est pas n'importe qui, le Dieu, l'Éternel, Yahweh, le Dieu de l'univers, Elohim, le Seigneur sera avec vous comme vous le dites. Détestez le mal et aimez le bien. Faites régner la justice à la porte de la ville. Peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, fera grâce au reste de Joseph. Encore une fois, Dieu ouvre l'espoir. Si vous faites ces choses, si vous revenez à Dieu, si vous départez de vos mauvaises voies, comme nous l'avons vu dans un autre passage, alors Dieu peut guérir le pays, Dieu peut vous sauver, il peut faire grâce au reste du peuple d'Israël, au reste du peuple juif. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, verset 16, le Seigneur sur ses, là encore une fois c'est le terme, l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Seigneur, c'est pas n'importe qui. Sur toutes les places, on se lamentera et dans toutes les rues, on dira « quel malheur, quel malheur ». Ça, c'est ce qu'on appelle le premier malheur du jugement. On l'appellera le laboureur à prendre le deuil et ceux qui disent des complaintes à se lamenter. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Autrement dit, à l'époque, quand on faisait le deuil, quand on menait le deuil, on embauchait des pleureurs et des pleureuses professionnelles pour ajouter à l'ambiance de tristesse. Et donc, il y avait des personnes, et il n'y a pas très longtemps, ma mère avait connu ça en Corse, à l'époque de la guerre. En Italie aussi, ça se faisait en Grèce, dans le film Zorba le Grec avec Anthony Quinn, il y avait des pleureuses professionnelles qui arrivaient, et on attendait d'elles des démonstrations vocales, physiques. « Oh !» C'est beau, il est beau, il est beau. Et on les payait à la fin de la cérémonie. Mais là, il y a tellement besoin de mener le deuil, il y a tellement de morts qu'il faut embaucher des laboureurs, des gens qui n'ont pas la formation de pleureuse. Mais on était obligé d'avoir recours à eux. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, on a vu que c'était la partie de la fin des temps du jugement. Et des fois on dira le jour de l'Éternel. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont sauvés, mais avant tout c'est un jour terrible, c'est la grande tribulation à laquelle je suis convaincu que l'Église va échapper en étant enlevée, c'est l'épisode de l'enlèvement, avant que la terre ne soit punie par Dieu. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Moi, je dis, le gars devrait aller prendre, acheter un billet de loto. Il a vraiment de la chance. Il arrive à échapper au lion, il se fait prendre par un ours, il s'appuie un peu, il y a un serpent qui vient le mordre. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière, n'est-il pas obscur et sans éclat ? Je déteste. Il va nous dire maintenant qu'il veut notre cœur, il ne veut pas notre religion. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de votre louange, de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, de tes claviers, de tes guitares, de tes violons, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël ? Vous avez porté, ça c'est le nom d'idole, Sakut, votre roi, et Kewan, vos idoles, l'étoile de votre Dieu, celui que vous vous êtes fabriqué. Il leur dit, toute votre religion, il s'adresse au chef religieux du royaume du Nord, à Bethel, il leur dit, Dieu, il dit que vos cultes, il n'en a absolument rien à faire. Il doit se boucher le nez, il doit se boucher les oreilles quand il vous entend. Et ça devrait nous parler. Est-ce que quand on vient, qu'on se réunit, on sait que Dieu est avec nous, il n'est pas plus ici que dans la rue, il est en nous, maintenant il fait son temple, mais est-ce que je prends de la joie à la louange parce que c'est un morceau que j'aime bien? Ce qui devrait me préoccuper, c'est est-ce que les paroles plaisent à Dieu? Est-ce qu'elles l'honorent? Est-ce que il y a peut-être moins, et je sais que les responsables de la louange ici sont très sensibles à ça, mais il y a toute une pan de la louange contemporaine qui se centre sur l'homme. Et on espère que Dieu va venir bénir nos projets, alors vous, c'est quelque chose qu'on remarque si on y est attentif, mais est-ce qu'un chant de louange glorifie Dieu ou est-ce qu'il appelle Dieu à mon aide pour glorifier mes projets ? Je me moque de votre religion tant qu'il y a de l'injustice sociale parmi vous. C'est lourd. Je me moque de vos organisations, de vos associations de 1905, tant qu'il y a des réfugiés qui périssent en mer. On aime bien louer le Seigneur, mais des fois, il veut se rapprocher un peu de la réalité de nos vies, et là, on essaye d'oublier ça vite. Mais personnellement, je ne fais pas grand-chose. Je vous exilerai au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu de l'univers. Il continue avec un autre malheur, c'est le chapitre 6, on va terminer avec ça. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande de la première des nations auprès desquelles va la communauté d'Israël. Passez à Calné et regardez, allez de là jusqu'à Hamath la Grande, puis descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre ? Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leur divan. J'allais dire, ils regardent des matchs de foot, mais c'est pas dans le texte, rassurez-vous. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils improvisent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique, Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. Ils ont l'impression d'être en sécurité parce qu'ils ont une fausse religion en place, et ils vivent dans leur aise, ils cherchent leur confort avant toute chose. Et c'est un peu caractéristique de nos sociétés modernes occidentales. On est devenu tellement matérialiste, tellement préoccupé de notre confort. On a déjà des grands écrans, mais maintenant il y a des grands écrans avec une, je sais même pas les termes, une haute définition, encore mieux. On peut aller chez Conforama prendre des canapés. Passez à Calnet. Il leur fait part des villes païennes. Il leur dit, est-ce qu'ils sont plus prospères que vous deux, ou vous croyez être, vous avez la présomption de penser que vous êtes en sécurité parce que vous êtes à Samarie, c'est en altitude, il y avait une montagne qui protégeait naturellement. Vous croyez éloigner le jour du malheur, vous utilisez la procrastination. Vous ne revenez pas à Dieu tout de suite. Est-ce que je fais ça dans ma vie? Est-ce que je me dis, à partir du mois prochain, ça tombera juste, je vais commencer à lire la Bible tous les matins, régulièrement. Non, faites-le maintenant, ne repoussez pas, ne procrastinez pas. Ils font approcher le règne de la violence. Leur confort se manifeste par une cruauté qui arrive. Parce qu'à chercher leur confort, leur propre aise, ils ne protègent pas ceux qui viennent attaquer. Ils sont dans la complaisance. Ils ont des lits d'ivoire. À l'époque, c'était le dernier cri. Alors j'imagine qu'il y avait des coussins, mais les montants des lits étaient en ivoire. Ça, c'était le chic du chic. Ils sont vautrés sur leur divan. Ils mangent des agneaux, des veaux. Ils se gavent. Et puis, ils apprécient la bonne musique. Ils boivent du bon vin dans des grandes coupes, ils s'enivrent, ils prennent la meilleure huile d'olive, première presse, ou je ne sais pas quelles sont les qualités aujourd'hui, mais ils sont insouciants, ils sont égoïstes, ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils partiront en exil à la tête des prisonniers, et les cris de joie de ces paresseux, leur confort, le repos, c'est pas mauvais. Mais pas si c'est motivé par la paresse et l'égoïsme, le nombrilisme. Ils partiront en exil à la tête des prisonniers. Donc c'est eux qui auront les premiers hameçons dans la gueule, pour parler comme si c'était des poissons. Et les cris de joie de ces paresseux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même, c'est une déclaration de l'Éternel, le Dieu de l'univers. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je déteste ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle contient. Ce qui fâche le plus, encore une fois, le Seigneur, au-delà du matérialisme, c'est l'orgueil. Et ça, il le répète dans toute la Bible. Si vous voulez noter d'autres passages, on n'a pas le temps de s'y tourner. C'est 1 Pierre 5:5, Jacques 4:6. Proverbe 3:34, il nous explique dans sa parole que celui qui s'élève, il va l'abaisser, et celui qui est abaissé, il sera élevé. C'est presque un principe physique de vase communicant. Et il leur dit, il va livrer la ville de Samarie, et c'est ce qui va se passer en l'an 722. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison des ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le mot de l'Éternel. » Un passage un peu difficile à interpréter. On pense que c'est que lorsqu'il y avait des morts dans une maison, il fallait les sortir et prendre soin de les enterrer, de s'occuper de leurs ossements, mais le cœur des hommes sera si corrompu que si quelqu'un parlait du nom de Dieu, il risquait fortement de mourir aussi. Oui, voici que l'Éternel donne des ordres, il fera tomber en ruine les grandes maisons et les petites se lézarderont. Et puis il a une image un peu particulière, il dit, est-ce que les chevaux courent sur un rocher ? Aujourd'hui, en principe, on fait courir des chevaux qui ont même des fers pour avoir une bonne traction, des bons crampons en quelque sorte. On les fait courir sur de l'herbe, sur de la pelouse. On peut les faire courir sur de la terre et sur des chemins même où il peut y avoir des pierres, mais on ne les fait pas cavaler sur des grands pans de rochers parce qu'ils n'auraient aucune traction, ils tomberaient, ils se blesseraient. Est-ce qu'on laboure des rochers avec des œufs, avec des bœufs ? Bien sûr que non. L'idée, c'est qu'évidemment, il y a des relations de cause à effet et on ne peut pas. La question, c'est évidemment, pourquoi avez-vous changé le droit en poison et le fruit de la justice en absinthe ? C'est la deuxième fois qu'il nous reprend cette même expression. On a changé le droit en pastis. En fait, c'était un poison, l'absinthe, et le fruit de la justice en absinthe. C'est ce poison qui mord la langue, qui a corrompu. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous vous faites des illusions. Vous dites, n'est-ce pas notre force qui nous a acquis la puissance ? C'est pourquoi je ferai surgir contre vous, communauté d'Israël, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. Parole très dure, parole de jugement. Et en même temps, Dieu nous donne les raisons pour son jugement, notre orgueil. Je dis notre parce qu'on mérite tout autant. Si nous ne sommes pas au bénéfice du salut en Jésus-Christ, nous méritons tout autant de périr dans la souffrance, d'être exilés, d'avoir les pires calamités sur nos vies. Mais Dieu nous donne la malédiction et en même temps, il nous donne la cure. Revenez à moi, cherchez-moi. Et il l'a dit au peuple d'Israël, et je crois qu'il veut le dire à chacun de nous aujourd'hui, ici à Nice. Prions. Seigneur, tu es un Dieu d'amour, et en même temps tu es un Dieu parfaitement juste, tu es un Dieu de justice, et tu ne peux pas laisser le péché impuni, Seigneur. Merci pour ces avertissements solennels que tu as donnés à ton peuple et qu'à travers eux tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à nous préoccuper des autres, de ceux qui souffrent, à ne pas nous consacrer à un confort égoïste. On vit dans une société qui encourage ça. Chaque semaine, il y a des milliers de tonnes de publicités qui sont distribuées dans nos boîtes à lettres pour nous faire désirer des choses matérielles, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné ta parole, que nous pouvons la lire à n'importe quel moment, nous pouvons la trouver en ligne, nous pouvons la mémoriser, l'écouter, pour nous réunir. Encore merci pour cette liberté que nous avons, Seigneur, mais aide-nous vraiment à te rechercher avant toute chose. C'est notre prière, Seigneur. C'est ma prière personnelle aussi. Prions ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur.